Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Les auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre les insultes et menaces sur les réseaux sociaux? On en parle à présent avec professeur Kodjo Ndukuma, expert en droit numérique. Professeur Kodjo, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous voulez participer à cette émission, fidèles auditeurs, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Paul Badianyama à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Marcel Mbala est à la coordination sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, de plus en plus, de nombreuses personnes sont victimes d'insultes, de dénigrements, de menaces directes ou indirectes via les réseaux sociaux. Le sentiment d'impunité anime souvent ceux qui pensent tout se permettre sur le net. D'autres ne mesurent pas la dimension publique de leurs actes. Souvent, ce sont les autorités politiques ainsi que d'autres personnalités publiques qui sont victimes des propos, images ou sonores dégradants dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, ainsi que sur d'autres plateformes numériques. Alors, comment lutter contre ce phénomène, les insultes et les menaces, propos dégradants sur les réseaux sociaux? Professeur Kodjo Ndukuma est expert en droit numérique. Encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody.
La première question est de savoir pourquoi les gens insultent de plus en plus sur les réseaux sociaux.
Bon, nous vivons un complexe de l'affranchi et nous vivons une infrastructure de liberté qui est l'Internet et qui devient une infrastructure de libertinage. C'est déjà ces deux éléments. Donc, le premier élément tient au comportement des personnes qui sont cachées derrière leur anonymat. Ça veut dire nous utilisons des numéros de téléphone ou des pseudos qui sont nos avatars informatiques et nous avons plus de liberté à pouvoir transgresser les règles morales et les règles de bienséance à cause, justement, de propriété de l'Internet. La deuxième chose dont je parlais, c'est qu'Internet est devenu un grand boulevard qui était une infrastructure de l'information. Mais maintenant, les gens l'utilisent pour exprimer leur point de vue à U et à Dia. Et là-dedans, il y a des violations des droits des tiers. Il y a également des actes de cybercriminalité, il y a des attaques informationnelles comme la diffamation et les imputations dommageables.
Bien, donc c'est dû premièrement à ce que vous avez qualifié des complexes de l'affranchi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Lorsque nous sommes dans le cyberespace, sans faire compliqué, le cyberespace c'est l'environnement connecté. Lorsque nous sommes sur WhatsApp, nous sommes dans le cyberespace. Lorsque nous sommes sur Twitter, lorsque nous sommes sur Snapchat ou lorsque nous sommes sur Facebook. En fait, nous sommes dans un espace qui n'est pas territorial et c'est un espace déterritorialisé. Le simple fait que nous nous transposons dans un monde sans shérif et sans gendarme, les personnes se trouvent libres de pouvoir exprimer toutes leurs inhibitions. Et c'est ce qu'on appelle le complexe de la franchie, qui est un phénomène sociologique que nous rencontrons, évidemment, dans le cyberespace. Et à cause de quoi ? À cause du fait qu'on a du mal à identifier les personnes, on peut se cacher derrière un numéro de téléphone, à cause du fait que l'origine de la violation n'est pas difficilement localisable, et en plus, les égomédias sont devenus des masses médias. Ça veut dire qu'avec son téléphone, on peut atteindre le plus de monde possible. Voilà, c'est ça qui aide les gens à faire n'importe quoi.
Il semble que si certains insultent, c'est pour, n'est-ce pas, s'attirer beaucoup de vues et il y a aussi un aspect pécunier derrière.
Effectivement, vous savez que le numérique a offert des métiers aux gens. Au début, nous avions des métiers de la parole, mais aujourd'hui, nous avons également les métiers de l'influence. Donc, Twitter, WhatsApp, Facebook servent à la communication d'influence. Donc, on peut payer une armée numérique lorsqu'on veut faire la promotion de son image ou lorsqu'on veut détruire également l'image de quelqu'un. Et puis, à moindre coût, on peut atteindre des milliards de personnes. Alors que si on doit payer une publicité à la télévision, on n'est pas sûr d'avoir le même effet de réseau. L'effet de réseau signifie que la valeur d'un service ou la valeur d'une information s'accroît à mesure que les utilisateurs y ont accès. Et donc, on peut créer le buzz. Souvent, c'est les informations insolites qui ne passent pas par un contenu éditorialisé. En fait, on crée le buzz, on crée l'événement parce que soit on a dénudé une personne, soit parce qu'on a donné un canular, une fausse information, soit alors parce que effectivement on s'attaque impunément à une personne qui a un impact de masse, qui peut être une star, un homme politique ou une personne de renom.
Voilà, et la question était de savoir pourquoi c'est toujours les hommes politiques et les stars qui font l'objet des insultes et propos dégradants sur les réseaux sociaux.
Parce que en fait, on a ce phénomène de followers. Lorsque vous regardez le compte Twitter de tel homme politique ou de telle star, vous vous rendez compte qu'il y a un grand nombre de vues ou un grand nombre de personnes qui sont branchées sur son profil. Alors, dès que vous postez un élément dans le mur virtuel où son site ou son profil est hébergé, vous vous rendez compte que vous avez plusieurs vues. Et le modèle économique aujourd'hui d'Internet est tel que même lorsque une information n'est pas vraie, mais du moment où il y a un coefficient important des personnes qui suivent cette information, Internet la diffuse davantage ou la met davantage à portée. Et donc, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle l'infocalypse, qui est l'apocalypse de l'information liée au fait que, même si vous dites une chose qui n'est pas vraie, mais que sur votre site ou sur votre profil, vous attirez le maximum de monde, il y a des annonces publicitaires qui passent et vous êtes mieux rémunéré pour le nombre de vues publicitaire ou le nombre de vues de contenu qu'il y a sur votre réseau ou sur votre profil. Et donc, il faut tout faire pour faire n'importe quoi et attirer le plus de monde possible.
Alors, professeur, on peut dire qu'aujourd'hui, comme Internet est un espace dématérialisé, donc tout le monde peut se permettre d'insulter les autorités, d'insulter tout le monde impunément.
Bon, le cyberespace congolais ne connaît pas encore une bonne cybersécurité. La cybersécurité, c'est la réponse multiforme et multi-acteur que nous donnons à ce phénomène de complexe de la franchie. Et on fait de chacun l'acteur de la sécurité et de la quiétude publique sur Internet, ce qu'on appelle l'ordre public numérique. Ça signifie quoi? D'abord, avant que vous puissiez poster un élément, vous devez avoir un téléphone et un réseau téléphonique. Ensuite, vous devez avoir un fournisseur d'accès à Internet. Et enfin, vous devez trouver un hébergeur. Ce qui se passe ailleurs, d'abord sur le plan préventif, on fait en sorte que lorsqu'il y a un contenu offensant, que l'opérateur de téléphonie ou votre fournisseur d'accès bloque l'accès à ce contenu-là. Si les deux ne parviennent pas à le faire, on passe maintenant à votre hébergeur, à qui on demande, pour violation des droits de tiers, de pouvoir supprimer ce contenu-là sur la page d'hébergement. Prenons le cas où vous êtes sur le site 7sur7.cd ou sur le site de Radio Okapi et qu'il y a un contenu qui porte atteinte à un homme politique, l'administrateur de ce site va l'effacer à partir des codes sources qu'il a d'hébergement de cette information. Autre chose également, c'est que tous les autres pays se sont dotés des lois sur la protection des données personnelles et les luttes contre la cybercriminalité en engageant les possibilités de perquisition informatique, les possibilités de recherche des traces de connexion, des possibilités de géolocalisation, dans le sens où quand vous insultez quelqu'un à partir de votre téléphone dans votre chambre, vous êtes connecté à une antenne relais et on peut remonter jusqu'à vous et s'assurer que vous êtes, vous, la personne qui est l'origine de ces violations des droits des tiers ou des violations du code pénal.
Bien, nous avons des auditeurs en ligne. Comment lutter contre les insultes et menaces sur les réseaux sociaux? Gabriel nous appelle de Gbadolité et Valentin depuis Ilebo. Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jeudi, c'est Gabriel Kaya depuis Gbadolité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, les internautes ont normalisé vraiment les insultes sur les réseaux sociaux. C'est un milieu public où tout le monde veut faire preuve de ce comportement sans tenir compte que, comme ils sachent que non, c'est un milieu où ils ne sont pas identifiés, ils ne seront pas répondus, ils se font masquer en effritant, en injuriant, en disant tout est possible, vraiment. Et ils sachent mieux que le pays ne met pas de loi de poursuite, le pays n'identifie pas tellement les gens qui font les choses, même le président de la République est insulté, le gouvernement et tout le monde sont tenus compte.
Bien, merci Valentin, plutôt Gabriel. Valentin, vous êtes à Ilebo, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux insultes sur les réseaux sociaux?
En tout cas, merci. À mon humble avis, concernant les insultes, dans des insultes, vraiment, ça fait mal. À mon humble avis, je crois que c'est un problème du ministre de la Jeunesse et le ministre de la Communication. Que ces gens se mettent ensemble pour trouver des solutions et comment mettre fin à ces injures qui circulent dans les réseaux sociaux.
Bien, donc vous demandez au ministre de voir comment mettre fin à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Professeur Kodjo Ndoukouma.
Oui.
Alors, bon. Vous avez suivi les points de vue de ces auditeurs?
Absolument. Vous savez, nous avons une spécialisation en droit comparé qui nous a permis de constater qu'on parle du cybercivisme aujourd'hui. Déjà au niveau de l'école primaire, comme le téléphone est utilisé par tout le monde, on commence à éduquer les enfants sur ce qu'on appelle la netiquette. Ça veut dire l'éthique comportementale qu'on doit avoir lorsque on est en train d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. Notamment, on ne se livre pas à des actes d'insultes, on ne se livre pas à publier des photos personnelles et on ne se livre pas à attaquer des personnes que vous ne connaissez pas. Mais ici, les anonymes s'attaquent à des inconnus. C'est déjà un problème d'éducation de masse, parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu un phénomène de masse. Et c'est un phénomène qui concerne cette génération qu'on a appelée X et Y, maintenant la génération Android. Et donc, les auditeurs sont bien fondés à demander à ce que le ministère de la Jeunesse s'implique. Et il faut créer, en fait, des cours de cybercivisme pour savoir comment les jeunes gens se comporteront pour ne pas être victimes et même devenus adultes, qu'ils ne puissent pas utiliser l'Internet à des fins malveillantes. La deuxième chose, c'est l'identification des abonnés. Ça signifie que aujourd'hui, les gens ont des connexions Internet, leurs téléphones ne sont pas enregistrés dans une base de données qui permet de lier l'identité physique d'une personne à son identité numérique. Ailleurs, dans les pays plus développés, lorsque vous avez un numéro de téléphone, ce numéro de téléphone correspond à un fichier d'identification, de sorte que même si on vous alloue ce qu'on appelle des adresses IP, qui sont des adresses qui vous permettent d'interagir de l'alphanumérique au langage de machine, ces adresses IP sont également contrôlées, de sorte que chaque fois que vous faites quelque chose pensant que vous êtes anonyme, vous pouvez toujours être retrouvé parce que votre identité numérique correspond à une identité administrative connue des services de police. Troisième élément rapidement, c'est aussi l'enregistrement de ce qu'on appelle les données de connexion. On ne parle pas des enregistrements de contenu, ça c'est autre chose. Mais c'est les données de connexion, les données de navigation et les données d'authentification. En fait, ailleurs, on a fait en sorte que quand vous entrez sur Internet, en fait, vous ouvrez une session. Le temps que vous êtes en train de chatter sur Facebook, c'est une session. Le temps que vous êtes en train d'échanger dans un groupe WhatsApp, c'est une session. Et donc, pendant cette session-là, on monitore vos données de connexion et vos données de navigation. Et quand il y a un problème, on sait remonter l'historique, comme on le fait avec l'historique des appels ou même l'historique des comptes bancaires. Maintenant, on le fait également avec l'historique de votre activité Internet pour pouvoir, au besoin, rétablir les gens dans leurs droits ou vous appréhender en cas d'infraction informatique.
Bien, nous allons accueillir Joseph de Calémi. Bonjour.
Bonjour au Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux insultes et menaces sur les réseaux sociaux?
Exactement, merci pour la parole que vous m'accordez encore pour la deuxième fois. Comme je l'ai commenté sur votre Facebook, en fait, les insultes sur les réseaux sociaux posent problème dans notre pays. D'abord, nous devons comprendre que les réseaux sociaux sont les moyens de communication que tout le monde en général, mais aussi les Congolais en particulier, trouvent les libertés d'expression moins contrôlées. Les gens pensent que quand je publie n'importe quoi, je ne serai pas bien identifié et je serai impuni. C'est ainsi que moi j'avais peut-être à dire que nombreux doivent être aussi poursuivis et sanctionnés. Et parce qu'ils pensent qu'en publiant de n'importe quoi, en postant de n'importe quoi, surtout les insultes, bon, ils ne seront pas suivis et il n'y a pas quelque chose qui peut arriver. Alors, pour mettre faire face à ces insultes, surtout, moi je proposerais au gouvernement congolais de créer un système de contrôle sur les réseaux sociaux qui peut identifier tous ceux-là qui publient n'importe quoi, c'est tous les insultes, parce que même la loi congolaise prévoit que les insultes, surtout les, se sont punis par la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système de contrôle qui pensera identifier ceux qui postent n'importe quoi pour que ces derniers soient mis à l'ordre, qu'ils soient punis. Et parce que nous pensons que ça pose maintenant de l'impunité au sein de notre pays et de n'importe quoi se publie. Or, c'est un moyen qui peut nous favoriser à avoir quand même des bonnes choses et non des insultes. Voilà ce que j'avais à commenter, Radio Capi.
Merci, Joseph de Calémi. Professeur Kodjo, vous avez la parole.
Oui, mais en réalité, vous savez qu'on est dans le domaine du droit pénal. Ça pourrait étonner les gens que je dise que la cybercriminalité fait aussi partie du droit pénal classique. Lorsque vous avez l'article 74 du code pénal qui traite des imputations dommageables ou des diffamations, lorsque vous avez l'article 75 du code pénal qui traite des injures publiques, mais en réalité, le parquet ou même la police judiciaire peut se saisir de toutes les déviances informationnel qui porte atteinte aux gens, rien que sur base de ces deux articles. Et je peux vous dire qu'il y a eu des cas de jurisprudence où pour offense au chef de l'État via les réseaux sociaux, il y a eu au moins 2 condamnations aujourd'hui comme hier. Donc ça veut dire que déjà, il faudrait qu'il y ait une conscience de nos parquets, de notre police, pour déjà se pencher sur des cas d'imputation dommageable et des injures.
Professeur, est-ce que notre cadre légal prend en charge la cybercriminalité, ces cas d'injures sur les réseaux sociaux?
Absolument. La cybercriminalité est faite de 2 ou 3 catégories d'infractions. Il y a les injures publiques, qu'elles soient proférées dans le monde physique ou sur Internet, ça reste des injures publiques punies par l'article 75 du Code pénal et en cas d'imputation dommageable par l'article 74. La deuxième catégorie des infractions cybercriminelles, c'est les infractions purement techniques, comme par exemple pirater le compte Facebook de quelqu'un ou, craquer le mot de passe d'une personne ou tout ce que nous voyons aujourd'hui avec les cas de M-Pesa, où on est en train de tricher sur les syntaxes informatiques des gens pour leur ravir leur argent. La troisième catégorie d'infractions cybercriminelles, c'est les infractions de diffusion. Lorsque vous enregistrez quelqu'un à son insu et que par la suite vous étiez dans le domaine privé, vous mettez ces informations de vie privée confidentielle sur la diffusion publique, c'est aussi de la cybercriminalité. Alors, si on remet cela en contexte, on comprend bien que celui qui injurie sur Internet et qu'on est sûr de son identité, cette personne est un criminel, on peut même dire de droit commun. Que ce soit le journaliste qui publie, selon l'article 74 du Code pénal, qui publie des fausses informations sur quelqu'un, mais ce journaliste commet une infraction de droit commun, soit-il sur Internet. Donc il ne faut pas, rendre la cybercriminalité extraterrestre.
Professeur Nkodjo, oui. Prenons l'exemple de la fille d'un sénateur qui a insulté dernièrement l'affaire des frais et la chronique, voilà, qui a insulté la première dame. Mais c'est pas elle qui a mis cette vidéo sur la place publique. Alors, qui est condamnable dans ces cas-là?
C'est une très bonne illustration de cas. Le fait est que, sans préjuger de la question, il y a eu ces paroles qui ont été proférées dans un espace public. Et, indifféremment de l'intervention d'Internet, ces faits-là peuvent être connus de nos parquets, de nos cours et tribunaux. Maintenant, quand on filme une personne à son insu dans l'espace public, ce n'est pas une infraction de filmer quelqu'un dans l'espace public à son insu. Maintenant, la deuxième chose, les gens s'en sont servis comme moyen de preuve. Ça veut dire, lorsque vous êtes en matière pénale, en matière d'infraction, la preuve, elle est libre. Donc, celui qui filme une personne agissant dans l'espace physique dans des conditions qui peuvent être punissables, cette personne cristallise en fait une preuve. Maintenant, on est dans le domaine de la preuve électronique. Est-ce que la preuve électronique, pour qu'elle soit reçue dans une affaire judiciaire, elle doit réunir 2 conditions. D'abord, qu'on puisse clairement identifier la personne et lui attacher l'acte qui est ainsi filmé. Et puis la deuxième chose, c'est un domaine d'expertise, c'est de s'assurer que ce qu'on a filmé n'a pas été modifié ni trafiqué. Mais maintenant, celui qui filme comme ça, bien sûr, il aide la justice à avoir une preuve. Mais a-t-il le droit de pouvoir le diffuser sur Internet? Lui-même également se rend coupable, en fait, de pouvoir exposer la vie d'autrui, de pouvoir présenter une personne à la vindicte populaire, et ça, c'est d'autres qualifications d'infraction.
Bien. Nous allons accueillir Fariel de Kananga. Comment lutter contre les insultes et menaces sur les réseaux sociaux? Fariel, bonjour.
Bonjour, M. Jody, et bonjour à votre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, M. Jody, je disais que ces actes témoignent non seulement le manquement d'une bonne éducation, mais aussi de l'opportunité offerte par l'Internet ou les réseaux sociaux à chaque personne qui accède librement et fait des publications de sa manière, sans sanction ni poursuite de la part du gouvernement. Mais de ma part, je dois demander au gouvernement de mettre des mécanismes en place pour poursuivre ces gens qui commettent ces actes médiocre sur les réseaux sociaux. Voilà au moins, monsieur Jody.
Merci. Professeur Kodjo, il y a Nestor également qui est revenu sur ça. Il demande que le gouvernement crée un système de contrôle. Nestor a parlé d'une commission pour identifier tous les gens qui insultent sur Internet. Est-ce possible de mettre en place ce système-là?
Bon, je dirais, en la défaveur de l'État, que lorsqu'il y a une nouvelle technologie, laquelle soit-elle, l'État doit se doter des capacités à pouvoir contrôler cette technologie. Lorsque on a inventé la télévision, on s'est mis à pouvoir contrôler cette télévision avec une autorité de régulation de contenu. Lorsque il y a eu l'avion à réacteur pour, le transport civil, on s'est doté des moyens pour contrôler également l'espace aérien. Mais aujourd'hui, le cyberespace congolais n'a pas de dispositif approprié comme en France, où il existe une commission informatique et liberté. Cette commission informatique et liberté monitore, redresse tous les actes où l'informatique est utilisée contre la personne humaine dans sa vie privée ou dans la protection de ses données personnelles. Ensuite, au niveau de la primature, il a été créé, maintenant je pense que c'est rattaché en France à des instances plus supérieures, l'Agence nationale de la sécurité du système de l'information. Ça veut dire qu'on considère aujourd'hui le cyberespace français, ce devrait être aussi le cas avec le Congo, comme étant une grande infosphère. Infosphère comme étant un grand système d'information, et il faut qu'il y ait une agence de l'État qui assure à la fois la sécurité du contenant et la sécurité des contenus. Et la sécurité signifie faire respecter l'ordre public, ça veut dire la tranquillité des utilisateurs, ainsi que le respect de l'environnement de travail. Mais ici, dans le pays, il n'y a pas encore ce genre de spécialisation, à part la Direction nationale des technologies de l'information et de la communication de la police nationale congolaise. Celle-ci, entre septembre d'une certaine année et le mois de mars, avait déjà rencontré un millier de cas de cybercriminalité avec des injures publiques et les escroqueries, les arnaques et les cas de pédopornographie. Donc il faut créer effectivement une structure spécialisée qui suit, au-delà des missions classiques de police et de sécurité, cette question de cybercriminalité informationnelle sur l'espace ou l'Internet congolais.
Bien. Kasha est en ligne depuis Bukavu. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux insultes sur les réseaux sociaux?
Oui, par rapport à ce sujet-là, nous avons constaté qu'il y a vraiment un laisser-aller dans le système des réseaux. Parce que c'est devenu un lieu où les gens s'injurient comme ils veulent, des insultations, des escroqueries même, des tapages, etc. Donc, qui sont des actes qui violent la dignité humaine, en fait. Donc, il fallait quoi? Il fallait que l'État prenne tous les moyens en jeu pour réprimer ces genres-là de débordements. Parce que je sais que nous savons très bien qu'il y a une loi qui réglemente les réseaux sociaux, mais une loi qui souffre de non-application.
D'accord. Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour contrôler facilement et punir tous ces gens qui débordent en injuriant les autres, en allant au-delà de la liberté des gens?
Bien, merci.
C'est la question.
D'accord. Professeur Kodjo.
Bon, ce qu'il faut savoir... Par exemple, nous avons les éditeurs professionnels et nous avons les éditeurs particuliers. Parce que nous sommes dans le domaine du web 2.0. Le web 2.0, c'est celui qui permet à n'importe qui d'être lu par n'importe qui en postant un message. Et ailleurs, on a d'abord commencé par réguler la presse en ligne. Ça veut dire que dans notre pays ici, le CESAC que j'ai approché, où l'ARPTC que j'ai également approché, ne régule pas le contenu qu'il y a sur Internet. Et donc, c'est un vide où nous avons une prolifération des sites d'information qui peuvent publier n'importe quoi. Plusieurs fois, on a dit des mauvaises choses sur les autorités, sur des sites qui ne sont même pas du tout régulés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais ni par l'autorité de régulation des postes et des télécoms. Dans d'autres pays, on a considéré la presse en ligne comme étant partie de la presse audiovisuelle pour permettre au CSA français, donc Conseil supérieur de l'audiovisuel français, de pouvoir réguler les éléments de presse en lien avec les hébergeurs, les fournisseurs d'accès et les opérateurs. Votre site insulte les gens, on dit à l'opérateur de fermer l'accès à ce site. Votre site insulte les gens, on dit à 7sur7.cd ou radiocapi.net de pouvoir effacer votre contenu. Et donc, ça régule. La deuxième chose, on a créé un procureur numérique. Ça veut dire que ce procureur numérique, et j'ai visité en son temps le bureau central de l'Interpol, celui-ci, il a des connexions privilégiées pour faire de cyber-investigations. Ça veut dire qu'il peut exploiter les traces informatiques, il peut exploiter les sources techniques de l'information pour remonter jusqu'à la personne qui a été la première à poster une information préjudiciable faisant l'objet d'investigations dans son ressort. C'est ça le procureur numérique. Et puis, il existe également dans chaque parquet des magistrats référents. Ça veut dire qu'il y a des magistrats qui sont formés pour des questions d'infraction sur les nouvelles technologies de l'information, les injures publiques, les diffamations sur Internet. Et dès qu'il y a un dossier de plainte dans ce sens, comme j'ai vu un ministre en fonction le faire, on oriente le dossier vers ce magistrat qui a la formation pour ce faire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut lutter et renforcer la répression des injures publiques sur Internet. Et puis aussi, si on le fait sur le plan administratif, de suspendre ou de faire fermer des sites Internet, comme la France a réussi à faire fermer plus de 2000 comptes Twitter qui faisaient apologie du terrorisme, comme Facebook l'a fait pour la RDC, en fermant 63 comptes Facebook fallacieux d'un citoyen congolais qui faisait de la communication d'influence négative. Donc le Congo doit se doter également d'outils et des ressources humaines professionnalisées, et cela est possible de mettre de l'ordre public sur l'Internet congolais.
Bien. Professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée.
Je vous remercie aussi.
Comment lutter contre les insultes et menaces sur les réseaux sociaux? De plus en plus, de nombreuses personnes sont victimes d'insultes, des dénigrements, des menaces directes ou indirectes via les réseaux sociaux. Le sentiment d'impunité anime souvent ceux qui pensent tout se permettre sur le net. D'autres ne mesurent pas la dimension publique de leurs actes. Alors comment lutter contre ce phénomène? Nous allons accueillir à présent le professeur Lino Pungi, expert en communication. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Professeur Lino, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène d'insultes et menaces sur les réseaux sociaux?
Je pense qu'une bonne partie de la question a été déjà vidée par le professeur Kondo, mais s'il faudrait revenir un peu de manière basique, moi je dirais il y a, à la base, je crois qu'il y a déjà un problème d'éducation. L'éducation élémentaire, parce que l'Internet, comme d'ailleurs les médias qui l'ont précédé, font partie de ce qu'on appelle l'espace public. Et sur l'espace public, je crois qu'il y a des règles de socialité qu'on doit respecter. Et déjà, je pense qu'il y a déjà ce problème-là au niveau de la base de l'éducation, comment savoir se tenir, qu'est-ce qu'il faut dire en public, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et donc, pour ne pas revenir sur ce que le professeur Kodjo a dit du point de vue juridique, moi, je préconiserais aussi déjà la prévention. Et la prévention, il faut la faire, à mon avis, au niveau, je suis éducateur, au niveau de l'éducation, déjà. Autant dans nos familles respectives, en enseignant aux enfants qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas en public,
autant aussi on doit ajouter cette dimension des usages des réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, ce n'est pas un espace pour aller insulter les gens. Et insulter qui, faire des injures à qui, faire de la diffamation à qui, c'est ça aussi. Et par rapport à cela, du point de vue formel, je dirais, ce qui manque pour l'instant chez nous, c'est, je reviens encore une fois, c'est justement des cours d'initiation à, je dirais, aux réseaux sociaux, ou bien tout simplement des cours d'éducation aux médias et à l'Internet. Et je crois qu'on devrait absolument intégrer cela dans, déjà dans l'enseignement fondamental et poursuivre cela pour le reste.
Et surtout, qu'actuellement, les jeunes gens ont accès à Internet déjà bien avant. Des petits enfants, vous trouverez même à l'école primaire, ont des téléphones et ont déjà accès à Internet.
Bien sûr, mais bon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et en second lieu aussi, n'oubliez pas, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, nous sommes dans une période, depuis quelques années, je crois depuis deux décennies déjà, je crois que nous sommes dans une époque de libération de la parole qui était longtemps confisquée. Et la liberté d'expression, à mon avis, je dirais, c'est un peu à un stade d'engouement. Les gens sont un peu dans l'engouement hein, pour dire n'importe quoi, ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Et surtout que l'Internet chez nous, et surtout les réseaux sociaux, sont apparus pendant la période, entre guillemets, de démocratisation, la période où les gens étaient en lutte contre la dictature, contre, ou bien de dérives dictatoriales. Dictatoriales, excusez-moi. Et donc, ce qui fait que les gens qui étaient opposés à la dictature, ou bien aux tendances de la dictature, avaient tendance à dénigrer les gens au pouvoir. Et c'est resté, pour l'instant, une culture. Donc, les gens pensent que quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pour dénigrer, c'est pour jusqu'à la diffamation par rapport aux autorités, par rapport à la politique, n'importe quelle autorité d'ailleurs. Et donc là, je pense qu'il y a un problème d'éducation sociale qui doit se faire.
Mais, professeur, certains, beaucoup le font parce qu'ils se cachent, ils sont animés d'un sentiment d'impunité. Je suis dans ma chambre avec mon téléphone, personne ne me voit, personne ne me connaît, donc je peux tout me permettre.
Bien sûr, mais parce que quand on dit éducation, il y a aussi une bonne éducation, je crois surtout en famille, ou bien au niveau fondamental, va jusqu'au niveau de la conscience. Hein? Donc c'est à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui, en conscience, dit, est-ce que je peux poser cet acte ou bien je peux pas la poser. Donc, c'est à ce niveau-là, je crois qu'on doit aller vers l'éducation des consciences d'abord. Hein, parce que se cacher ou bien ne pas se cacher, mais le tout, c'est quand on est consciencieux, c'est pas parce qu'on est seul qu'on va poser un acte qui peut porter préjudice, par exemple. Hein, donc, moi, je pense que la base, d'abord, c'est là. Hein, le reste, les côtés juridiques, ça sont des déviations. Mais si une masse, comme le cas qui est maintenant en RDC, si c'est la masse qui a tendance à injurier, qui a tendance à insulter, qui a tendance à diffamer, et donc là, il y a un problème sérieux, un problème social sérieux qu'il faut voir avec beaucoup de sérieux.
Mais prenons l'exemple, professeur, dans les différents groupes WhatsApp ou sur Facebook, les administrateurs peuvent intervenir pour remettre à l'ordre ceux qui tiennent des propos injurieux.
Oui, de plus en plus. Et c'est ça, quand je dis, je donne un exemple. Hein, quand vous dites des administrateurs, il y a des lieux de socialisation qui peuvent jouer aussi ce rôle. Prenons les associations culturelles, les partis politiques, les églises. Donc, on peut organiser des séminaires à l'intention, par exemple, de jeunes qui tiennent des groupes WhatsApp, etc. Comment les aider à établir, par exemple, un règlement d'ordre intérieur du groupe WhatsApp en question. Pour dire que voilà, notre groupe WhatsApp, nous avons tel objectif, et il est interdit de faire ça, ceci, cela. Vous voyez? Or, malheureusement, ce genre d'activité n'existe presque pas. Ou bien sont isolés. Hein? Donc, je crois qu'on doit considérer cela comme un problème social réel et à pouvoir prendre des stratégies systématiques, hein, ne pas laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. Je pense que là, c'est pas une prise de responsabilité. Le prof Kodjo ici a insisté sur les aspects juridiques, sur les aspects organisationnels, sur la prise en charge même de l'État lui-même. Et donc, moi, je crois qu'il y a une responsabilité collective, mais aussi une responsabilité des leaders d'opinion.
Bien, vous avez dit qu'il est important de jouer sur la prévention. Alors, comment bien mener cette prévention par rapport aux insultes et menaces sur les réseaux sociaux?
Bon, d'abord aussi, il y a une chose. N'oubliez pas aussi que certaines insultes, certaines injures participent plus ou moins à l'humour. Ça, c'est un phénomène aussi que je constate au moins ici chez nous en RDC. Et donc, ils ne sont pas forcément, c'est pas forcément pour nuire quelqu'un. Hein, c'est pas l'intention de la personne, c'est pas pour nuire. L'intention, c'est peut-être un humour noir, je dirais, juste pour, minimiser un peu hein, le pouvoir de quelqu'un, l'autorité, la force de quelqu'un pour l'amener un peu à être plus ou moins comme tout le monde. Donc il y a aussi cette part de l'insulte hein, qu'il faut pas considérer totalement comme l'insulte. Mais l'autre chose aussi, il y a la dénonciation. N'oublions pas ça. Il y a la dénonciation. Je donne un exemple. Je suis professeur d'université et j'ai commis des abus. Et si un groupe d'étudiants se décide à étaler ses abus sur les réseaux sociaux, bah, bien sûr, ça va toucher à ma dignité. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler réellement d'insultes, de dénigrements, ou bien on a dénoncé de faits réels? Donc là aussi, il faut qu'on fasse attention. C'est pas parce qu'on est une autorité qu'on peut se permettre tout, et puis après dire non, il faut pas qu'on en parle sur Internet. Il y a aussi là, le fait des dénonciations. N'oublions pas qu'avec Internet, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux participent à la démocratie, à la démocratie de masse. Hein, c'est un peu le cinquième pouvoir après les médias. C'est le cinquième pouvoir. Et donc, il y a aussi cette dimension-là qu'on ne doit pas oublier. C'est pas parce que j'ai parlé d'une autorité en termes négatifs que forcément, moi, j'ai insulté l'autorité. Mais si les faits dénoncés sont des faits réels qui se sont passés, et si ça touche à sa dignité, je sais pas. Là aussi, il faut qu'on à quoi servirait, par exemple, le journalisme d'investigation aujourd'hui? Alors, si on n'arrive pas à dénoncer des faits négatifs d'une autorité, c'est pas parce qu'on est une autorité que forcément on peut tout se permettre et que les gens doivent se taire, même si c'est des abus.
Oui, dénoncer des faits négatifs, mais cela ne rime pas avec les injures, professeur.
Non, mais c'est là il faut voir, il faut distinguer qu'est-ce qui est injure, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est injure, à quel moment on peut parler d'injure, à quel moment c'est un dénigrement, à quel moment c'est une dénonciation. Donc là aussi, il faut faire attention. Hein, parce qu'il y a un méli-mélo aujourd'hui. Il y a un méli-mélo. Et là, c'est comme ça, j'ai dit, il faut une formation systématique. Hein, qui forme les citoyens à ça, même du point de vue notionnel, savoir définir c'est quoi une injure, c'est quoi une dénonciation, c'est quoi une diffamation, etc. Et comme ça, on sait. Et là, les juristes, et nous, les éducateurs, nous avons un rôle. Et surtout, vous aussi, les journalistes, vous avez un rôle. Hein, parce que les mots sont mal utilisés parfois.
Bien, professeur, vous avez dit qu'il est important de jouer sur la prévention. Alors, comment bien mener cette campagne de prévention? Comment doit-elle se passer? Quelles sont les cibles privilégiées, etc.?
Pour moi, la première cible aujourd'hui, c'est les jeunes. Parce que demain, d'ici 5-10 ans, c'est eux qui vont avoir le levier commande du pays. Et donc, il faut aujourd'hui former, par exemple, les instituteurs à pouvoir parler de ces choses déjà dès l'école maternelle, dès l'école primaire. Deuxièmement, l'école secondaire et enfin l'université. Par exemple, nous, là, dans les cours de communication, dans les cours de déontologie et éthique de la communication, déjà, et en parler. Déjà, bon, on parle de diffamation dans les médias, dans les cours, mais maintenant, il faut étendre. Dans le cours d'éducation à la citoyenneté, je crois que les cours de l'éducation à la citoyenneté ne doivent pas se restreindre rien que à l'étude des institutions de la République et tout le reste. C'est aussi ces aspects-là qu'il faut aborder. Comment ça, ces aspects pour être un citoyen responsable. Un citoyen responsable, c'est celui-là qui sait à quel moment, quelle est la différence entre dénoncer, injurier, insulter ou diffamer. Mais si le citoyen ne le sait pas distinguer ces notions, Hein, pour lui, bon, il pense que, bon, il peut dénoncer une situation, mais en insultant, en ajoutant encore une insulte ou bien des injures sur une autorité. Non, dénonce les faits. Et ne fais pas trop de commentaires s'il y a un fait à dénoncer. Et encore, il faut que ces faits-là soient vérifiés, qu'il y ait des preuves. Hein, qu'il y ait peut-être des sources, si vous n'avez pas de preuves matérielles, mais il y a des sources fiables. Mais s'il n'y en a pas, on se tait, on ne fait pas, on ne dit rien. Et donc, moi, je pense que d'abord, il y a une instance qui est formelle, qui est stable, c'est l'instance scolaire, c'est l'école. Hein, et les universités, de deux, hein, c'est tous les groupements politiques. Moi, je pense qu'un parti politique est là aussi pour éduquer les citoyens. Un parti politique n'est pas là que pour ovationner ou bien pour faire... c'est pas moi l'éloge d'un homme politique, voilà. Un parti politique aussi est là pour former des citoyens responsables qui respectent les lois, qui respectent la dignité, qui respectent les droits des autres. Hein, toutes les constitutions sont plus ou moins inspirées sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là-dedans, on parle de la dignité. Aujourd'hui, cet aspect de la dignité passe aussi par le respect de la réputation des autres. Elle passe aussi par le respect de la personnalité des autres. Et cette personnalité-là, quand elle est exposée sur la place publique de manière négative, et donc ça peut conduire quelqu'un à une espèce, je dirais, de mort psychologique, même si la personne ne se suicide pas, mais psychologiquement, cette personne-là reste condamnée. Et donc, moi, je pense que nous avons des instances d'éducation sociale qui existent, et maintenant, il faut amener les contenus de l'éducation aux usages responsable des réseaux sociaux dans ces lieux.
Hein? Donc, professeur, moi, vous avez dit tout à l'heure que tout commence en famille. Si déjà au niveau de la famille, une personne n'a pas reçu une bonne éducation, elle a appris à insulter dans sa famille, même sur la place publique, sur les réseaux sociaux, elle va continuer à le faire.
Mais c'est là où je dis, il y a une espèce de, je dirais pas de cercle vicieux, mais nous sommes dans un système. Il y a une approche systémique à avoir. Comment une famille peut bien éduquer les enfants aujourd'hui? Et donc, il faut faire attention. Si déjà les familles sont instables aujourd'hui, socialement instables, ou bien matériellement instables, et que les parents sont partis toute la journée, n'ont pas le temps de dialoguer avec leurs enfants, s'il y a un problème économique qui se pose, et donc, je dis, la responsabilité première, quoi qu'on dise, revient à l'État. Revient au gouvernement. Hein? Et ça pose aussi le problème du dividende social. Hein? Le problème de la rétribution, le problème de création des emplois pour avoir des familles stables, des familles qui sachent éduquer leurs enfants. Alors si aujourd'hui les familles sont disloquées, ou bien les parents ne se retrouvent pas, ils sont démoralisés, ils ne savent pas suivre les enfants, etc. On arrive à ça. Moi, je pense que quand on dit la famille, c'est la cellule de la société, et donc ça doit être aussi une priorité des gouvernants. Ça doit être une priorité. Comment on fait pour que les familles aujourd'hui produisent des citoyens responsables, des citoyens qui n'insultent pas les gens sur la place publique? Et donc, c'est ça la prévention. Si dans la politique gouvernementale, on ne pense pas à ça, et donc on va avoir de plus en plus un pays avec des citoyens voyous.
Bien, on va accueillir un auditeur, professeur. Il s'agit de Steve. Il est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio de la Paix.
Nous parlons de comment lutter contre les insultes sur les réseaux sociaux. Quelle est votre préoccupation, Steve?
Merci beaucoup, Monsieur Joly Daniel. Le problème, c'est la responsabilité de notre gouvernement. Aujourd'hui, si quelqu'un commet une infraction et qu'elle n'est pas interpellée, tout ce qu'il fait, pour lui, il trouve ça normal. Donc pourquoi? Parce qu'il n'est pas interpellé. Je peux frapper quelqu'un en cours des routes, si je ne suis pas interpellé, je vais trouver ça normal, je vais continuer à le faire. La responsabilité de notre gouvernement, qu'est-ce que le ministre de communication, il fait quoi sur le terrain? Il fait quoi sur le terrain? Parce que c'est de n'importe quoi. Et je me demande, dans d'autres pays, c'est comme ça qu'on utilise l'Internet ou la communication, ou bien c'est seulement ici chez nous en RDC. Quelqu'un n'est pas identifié, et surtout nos amis de diaspora qui sont ailleurs là, ils publient de n'importe quoi, des insultes, tout consort, mais ils ne sont pas inquiétés, ils sont à l'aise, et c'est comme ça qu'il faut continuer à insulter. Donc, Les gens sont victimes parce que notre gouvernement ne contrôle pas ça. Il n'y a même pas un dépôt de loi au niveau du Parlement pour sécuriser notre communication ou les réseaux sociaux.
Bien, merci Steve de Kinshasa. Nous allons accueillir Jires de Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux insultes sur les réseaux sociaux? Jires, il n'est plus là, il est parti, désolé. Professeur Lino Pungi, vous avez la parole.
Oui. C'est vrai, je reviens encore sur... C'est vrai, il y a cette dimension de l'impunité. Le prof Kodjo a insisté là-dessus, sur l'organisation des institutions de régulation, hein, sur le renforcement de ces institutions, le renforcement des capacités des membres de ces institutions pour qu'elles fonctionnent convenablement.
Steve a pointé du doigt le ministre de la Communication. Qu'est-ce que le ministre peut faire, professeur, dans ce contexte?
Non, mais je pense que la régulation dans notre pays... n'est pas seulement l'attribution du ministre. D'ailleurs, à un moment donné, on a failli même supprimer le ministère de l'Information pour privilégier le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et avec l'autorité de régulation de la Poste et télécommunication. Je pense à ce niveau-là qu'il faut, c'est pas le ministre, il faut renforcer les capacités des autres instances de régulation comme le CESAC, parce que le CESAC comprend à son sein des délégués venant des institutions sociales, de la société civile, de l'association des parents, etc. Vous voyez? Et donc, moi, je pense qu'il faut renforcer les capacités, l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. D'ailleurs, c'est bien dit de la communication, et la communication est englobante. Hein? Et si, peut-être faire voir un peu comment faire... une espèce de passerelle,
oui,
entre le CESAC et l'ARTPC. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut voir les choses. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi la régulation au niveau de, comme j'ai dit là, si on parvient à former régulièrement les administrateurs de groupes, etc.,
oui,
si on parvient, par exemple, à identifier tous ceux qui ont je dirais entre parenthèses, entre guillemets, de chaînes de télévision, de YouTube, par exemple, toutes ces personnes-là, moi je pense que ça pourrait. Et de manière prophylactique, si la régulation, si je dirais la gouvernance est équilibrée, je crois que pour l'instant, par exemple, ce que l'autre, le correspondant vient de dire, des amis de la diaspora.
Mais il semble que la plupart des insultes viennent des amis de la diaspora chaîne YouTube.
Ils s'attaquent à qui?
Souvent, c'est aux hommes politiques.
Alors, pourquoi s'attaquer aux hommes politiques? Vous voyez, si nos hommes politiques, je dirais, si nous aussi, on est peut-être là-dedans, d'une façon ou d'une autre, si nous mettons en place un système de gouvernance honnête, on réduirait déjà les attaques, on réduirait les insultes au moins par rapport aux gouvernants. Moi, je pense que il faut aussi comprendre certaines insultes comme des ras-le-bol. Moi, je suis pas tout à fait psychologue, mais il faut voir aussi la dimension psychologique. Moi, je pense, même quand Kodjo, le professeur Kodjo a évoqué, par exemple, ce qui se fait en France, comment on supprime, c'est vrai. Quand c'est vraiment une cybercriminalité, quand c'est criminel, c'est sans fondement, il n'y a pas d'argumentaire, c'est gratuit, etc. Bon, là, il faut supprimer. Mais parfois, il faut analyser. D'où vient... Parce que il faut demander, peut-être une autre fois, il faut appeler un psychologue social. Je crois que là aussi, c'est un problème, monsieur, aujourd'hui.
Oui, nous aurons d'ailleurs un psychologue tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Pour notre pays actuellement, nous avons besoin vraiment des analyses des psychologues sociaux. C'est vraiment important des psychologues, des gens qui ont fait la psychologie sociale, d'analyser un peu, parce que nous sommes en face des pathologies sociales. Et peut-être nous les abordons comme ça, vaguement, peut-être du point de vue politique, du point de vue rapport entre gouvernants et gouvernés, alors que le problème, il est psychologique. Si quelqu'un est dans une situation de ras-le-bol, il fait quoi? Hein, si quelqu'un dans une situation de ras-le-bol.
Oui.
Si vous mettez des citoyens dans des états comme ça, ben ils vont éclater, ils vont craquer.
Ils vont insulter. Merci, professeur Lino Pungi. Je rappelle que vous êtes expert en communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
À la prochaine.
Bien, mesdames et messieurs, nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Okapi Service. Merci de rester fidèles à cette émission. Nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après pour Okapi. Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission. Nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre les insultes et menaces sur les réseaux sociaux. De plus en plus, de nombreuses personnes sont victimes d'insultes, de dénigrements, de menaces directes ou indirectes via les réseaux sociaux. Le sentiment d'impunité anime souvent ceux qui pensent tout se permettre sur le net. D'autres ne mesurent pas la dimension publique de leurs actes. Souvent, ce sont les autorités politiques ainsi que d'autres personnalités publiques qui sont victime des propos, images ou sonores dégradants, injurieux dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, Twitter, ainsi que sur d'autres plateformes numériques. Comment lutter contre ces phénomènes? Henri Christian Longenja est en ligne. Il est secrétaire général du collectif 24, une structure qui lutte pour l'accès à l'information. Henri Christian, bonjour.
Bonjour José, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capitale.
Bien, Henri Christian, d'après vous, qu'est-ce qui explique qu'il y ait de plus en plus des insultes et menaces sur les réseaux sociaux?
Bon, moi, je pense que les menaces par essence, et même par les insultes de par essence, ça, rien ne peut s'expliquer, parce que on peut pas encourager, comme disait l'invité de tout à l'heure, le communicologue, que c'est un ras-le-bol qu'on jette. Il y a une manière de jeter un ras-le-bol, sans pour autant insulter, sans pour autant menacer. Donc là, ça dénote quand même le niveau d'éducation ou même du comportement de nos compatriotes qui sont listes dans des telles pratiques. Parce que même si aujourd'hui nos autorités nous donnent le décor que ça nous donne aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sentons que nous ne sommes pas dans un état où nos autorités politiques se préoccupent de nos problèmes, mais rien ne peut justifier les injures et des menaces qu'on vit actuellement dans les réseaux sociaux. Donc, pour moi, je pense que c'est question de l'éducation et c'est question de manière de faire les choses. Parce qu'il y a lieu de dire la vérité aux gens sans pour autant les menacer, sans pour autant injurier. Alors, ils oublient que les injures sont condamnées par la loi et que les infractions commises en ligne, tout comme en dehors de offline, sont toujours condamnables. Et surtout que en ligne, à l'Internet, il y a la traçabilité qu'on peut remonter jusqu'à ce qu'on puisse savoir qui est à l'origine de ces injures et ainsi de suite. Donc, nous pensons qu'il y a lieu que nos compatriotes puissent avoir un autre comportement, d'autres attitudes que des injures, des menaces et telles qu'on voit, même si on ne partage pas l'opinion, même si l'autre est d'un autre camp politique ou quoi, mais il y a lieu de lui dire la vérité, sans pour autant l'injurier et le menacer, parce que là, c'est toucher vraiment à sa personnalité et pour toucher aussi à l'atteinte à sa dignité, à sa sécurité.
On a suivi tout à l'heure Steve de Kinshasa qui a pointé du doigt la diaspora, nos frères de la diaspora avec leur chaîne YouTube qui font des émissions en train où les gens tiennent des propos injurieux à l'encontre des autorités du pays. Quelque part, il semble que c'est pour des raisons financières. Plus on crée de buzz, on fait des scandales, bon, plus les gens se connecte, le nombre de vues augmente et ça vous rapporte de l'argent.
Non, mais j'estime que même si on cherche du business, mais il faut savoir que même si on est à l'extérieur, aujourd'hui, le monde dans tous les coins aspire à être des états de droit. Donc, c'est le droit qui doit primer. Et il y a un problème aujourd'hui que l'Internet a une dimension transfrontalière et que nos autorités, même au niveau de l'autorité de régulation, même au niveau du ministère de l'SFPT, sont incapables de contrôler tout ça parce qu'ils n'ont pas la technologie de pointe et qu'ils ne forment pas aussi les gens pour remonter à tout ça et essayer de bloquer certaines choses qui viendraient de l'extérieur. Aujourd'hui, vous pouvez aller en Chine. Malheureusement, ce n'est pas un bon exemple à prévaloir, parce que nous, en tant que défenseurs des droits humains et surtout des libertés d'expression, nous condamnons toujours ce qui se passe en Chine comme nivellement du droit à la liberté d'expression. Mais vous ne pouvez pas arriver là et chercher n'importe quoi, même au niveau du Google, pour l'avoir, parce qu'il y a une manière de contrôler. Bien sûr, nous condamnons la censure, mais il y a lieu aussi pour des questions de mœurs, pour questions d'éthique et d'équité, et pour questions d'état de droit, que les gens puissent vraiment apprendre à dire la vérité. Donc, le fait de chercher du bise parce qu'on va injurier telle autorité, et, beaucoup de gens vont voir et tout ça, mais vous oubliez qu'il y a la responsabilité civile ou pénale qui est engagée et que l'autorité peut vous poursuivre. Donc, c'est ça le plus grand problème. Mais la difficulté, c'est que nos gens, au niveau des autorités, comme je disais, n'ont pas une technologie de pointe pour surveiller tout ça. Mais nos compatriotes au niveau du pays doivent savoir que lorsque quelqu'un a émis des injures, on voit YouTube avec Boketsu, Premier, avec beaucoup de gens, au niveau de l'extérieur, les films de YouTube, tout ça, et qui profèrent des histoires parfois pour se faire connaître, d'autres pour trouver encore des assises, des arguments que je ne peux pas rentrer au pays parce que j'ai dit des choses, ceci, cela, mais ils payent. Mais il est important de savoir que nous qui sommes au pays, lorsque vous cliquez ou vous partagez de telles vidéos, votre responsabilité aussi est engagée. Parce que l'information que vous êtes en train de partager, est-ce que vous l'avez vérifiée? Les injures que l'autre est en train de profaner, vous savez que ce sont des injures. Mais il ne faut pas les partager. Parce que si vous les partagez, vous augmentez le nombre de vues et à ce moment-là, vous propagez tous ces mensonges-là et c'est aussi votre responsabilité qui est engagée. Et lorsqu'on doit suivre, vous aussi, vous n'allez pas être épargné. Donc, il y a lieu aujourd'hui que les gens s'attellent à des vraies informations qu'il faut partager au lieu des informations qu'on voit aujourd'hui, des injures, des insultes, tout ça. Il y a même ceux qui créent, qui imitent les voix des gens en créant des histoires, en prenant des films par-ci par-là et on les faisait passer et comme si c'était au Congo. Et ça, ce sont des actes que nous estimons que c'est condamnable parce que ce n'est pas de bonnes informations qu'on est en train de donner à la population.
Bien, Henri-Christian, nous allons accueillir Doudou et Jiresse. Tous les deux sont à Mbujimaï. Doudou, bonjour.
Bonjour, c'est Jody.
Quel est votre... c'est Jody. Quelle est votre préoccupation par rapport aux insultes et menaces sur les réseaux sociaux?
Par rapport à ce qui concerne les menaces et insultes sur les réseaux sociaux, je dirais tout va de l'éducation de base. Quand on est mal éduqué, on est prêt à insulter facilement. Et en dehors de ça, il s'avère important que les autorités, nos autorités politico-administratives apprennent à encadrer ou à éduquer leurs militants. Actuellement, en RDC, pour être un bon militant, lorsqu'on est de l'opposition, il faut injurier. Alors, tout cela va de la mauvaise éducation et mauvais encadrement de toutes les autorités politico-administratives par rapport à leurs militants. Hormis cela, il serait mieux que l'Assemblée nationale et provinciale parvienne quand même à pouvoir légiférer par rapport à ce qui concerne les cybercriminalités. Et si on parvient à légiférer sur ce, là, on pourra maintenant penser à comment traquer les récréants. J'ai dit aujourd'hui.
Merci, Doudou. Jiresse, bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux injures et menaces sur les réseaux sociaux?
Oui, ma préoccupation est comme ça. À ce qui concerne les insultes aux réseaux sociaux, le problème que le gouvernement va faire, il va planifier un système de contrôle. Ce système ici va contrôler si quelqu'un publie des insultes à propos des autorités, on va l'arrêter. C'est ça le problème. Par contre, je peux dire encore que si quelqu'un incite l'autorité, c'est-à-dire il provoque, il mérite d'être arrêté. C'est ça ma préoccupation.
Bien, merci. Donc, les militants des partis politiques doivent être bien éduqués par les animateurs de ces partis. Et puis, Doudou a dit qu'il faut légiférer. Jurès dit qu'il faut mettre en place un système de contrôle et arrêter ceux qui insultent les autorités. Henri-Christian Longuenja.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec mes deux compatriotes. Parce que le plus grand problème, ce n'est pas seulement, comme nous disions au début, ceux qui viennent de l'extérieur du pays, avec ceux qui font de YouTube. Même ici, on voit les militants des partis politiques en train de profaner des injures et tout ça contre quelques personnalités, et ils se font filmer et ils font passer ça. Donc, c'est un sérieux problème, mais la difficulté, c'est que dans notre pays, on n'a pas de politique publique liée à la gouvernance de l'Internet. Nous avons toujours discuté avec le ministère et dans le cadre du groupe multi-acteurs pour la gouvernance de l'Internet, pour qu'il ait des politiques publiques par rapport à toutes ces questions-là. Lorsque quelqu'un profère des injures comme ça, il est responsable. On est dans un état de droit, on ne peut pas condamner des injures seulement, des injures publiques conférées directement en dehors de la ligne, mais des injures qu'on profère en ligne sont encore, à mon avis, plus graves que des injures offline. Parce qu'en ligne, c'est le monde entier qui va voir, mais si la loi condamne des injures offline, qui sont proférées parfois en présence de deux, trois personnes, et tout ça qui peuvent être des témoins, à plus forte raison, des injures et des menaces qui se font en ligne, dont le monde entier est en train de vous suivre. Donc, il est important que vraiment le gouvernement puisse mieux travailler sur ces questions-là, des questions de politique publique. Même si nous disons que nous ne sommes pas d'accord par rapport à la censure ici, lorsque nous défendons même au niveau du collectif 24 que nous sommes contre la censure, c'est par rapport à la liberté de la presse. Et les journalistes doivent être libres pour publier son opinion. Parce que nous savons qu'un journaliste professionnel, s'il a eu accès à l'information, il va bien traiter l'information, il va croiser les données, et ce qu'il va publier, c'est vraiment de l'objectivité. Mais lorsque un paisible citoyen qui s'hasarde parce qu'il a son smartphone avec son YouTube commence à injurier les gens, je pense bien qu'il y a lieu que l'État fasse aussi son travail dans un état de droit.
Henri-Christian Longuenja, vous avez suivi certainement cette vidéo qui défrait la chronique, la fille d'un sénateur qui a insulté la première dame de la République. Alors, à votre avis, est-ce que elle a fait cela sans se filmer? C'est quelqu'un d'autre qui l'a filmé et puis la vidéo a été partagée de manière virale sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis par rapport à cela?
Ouais, bon, effectivement, aujourd'hui aussi, les gens doivent comprendre que nous vivons dans l'ère du numérique. Le numérique, ça veut dire que lorsque on a des responsabilités, lorsqu'on tient des propos en public, il faut savoir contrôler parce que vous ne savez pas qui est en train de vous filmer. Et aujourd'hui, les gens ont tendance devant un spectacle, c'est de publier, de filmer et publier directement. Donc, ça, c'est nos réalités d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que, si je prends la fille, par exemple, elle est députée, provincial. Alors, sa nature là de lui du peuple, elle doit savoir contrôler son langage, surtout lorsqu'elle doit s'adresser à la première dame, et même s'il y a eu des émotions. Mais le problème maintenant, c'est que il y a la responsabilité primaire, c'est de celui qui a filmé et ou c'est d'elle-même qui a proféré des injures. Mais à chaque instant que si ça tombe par exemple dans ma boîte, et que moi, je prends ça dans mon compte WhatsApp, je partage, je dois savoir que ma responsabilité est engagée. Parce que lorsque je partage ces injures-là, on a injurié la première dame, et que moi, je partage pour que mes amis puissent suivre ces insanités, cela voudrait dire que je suis en train de transférer les insanités et ma responsabilité est engagée. Et c'est là où nous disons que le plus grand problème, c'est le problème de l'éducation, parce que les gens ne savent pas, ne prennent pas conscience des actes qu'ils sont en train de commettre. Mais si demain l'État se réveille et commence à réprimer ces gens d'actes, je pense bien que les gens vont prendre conscience pour ne pas partager du n'importe quoi. Parce que vous savez, dans ce pays, il y a des choses qu'on amplifie tout simplement parce qu'on a partagé. Mais si aujourd'hui, moi, je passe, je vous injure et qu'il n'y a qu'à peine mais quelques amis qui ont suivi ça et qui ont bloqué, ce n'est pas partagé, je pense que le monde entier ne saura pas.
Donc, Henri Christian, une bonne manière de lutter, c'est que chacun, à son niveau, peut bloquer les vidéos ou des sonores ou des textes injurieux. Et voilà, c'est une bonne façon aussi de lutter contre cela.
Oui, exactement. Parce que je pense que la meilleure méthode, c'est celle-là. Et c'est comme dit à l'époque, Socrate disait, ou même Jean-Jacques Rousseau disait, il ne faut jamais donner une information si on n'est pas sûr que cette information est la bonne et elle est vraie. C'est-à-dire que lorsque je dois partager une vidéo, je dois me rassurer des propos qui sont dans ces vidéos. Mais souvent, ce qui arrive, on voit du vise parce qu'on est du même parti politique, on veut que l'opinion puisse savoir ce qui s'est passé, et du coup, on partage. Mais je pense que la bonne méthode, c'est lorsque la personne se rassure que ce qui est dit dans ces vidéos, ou soit c'est dans ses textes, ou c'est vraiment des injures et des menaces contre quelqu'un, même si ce n'est pas l'autorité, mais n'importe quel citoyen du monde, et que je ne peux pas partager, je dois bloquer à mon niveau, ça fera en sorte que le nombre des internautes qui vont suivre ça va diminuer, et les vidéos verront que ça n'aura pas d'écho. Parfois, l'auteur a partagé à une ou deux personnes seulement, mais ce sont les deux qui ont partagé à leurs amis sans pour autant s'en tirer d'avance, et conséquence, ça prend l'ampleur. Mais j'estime que la bonne manière, c'est de sensibiliser les gens, c'est avant de partager quelque chose, avant de cliquer « j'aime », il faut vérifier et être conscient que ce que je partage, ce n'est plus l'auteur, c'est ma responsabilité, et par conséquent, si je ne suis pas convaincu, et si je sais que ce sont des faussetés, ce n'est pas de vraies informations, je ne peux pas partager, au contraire, je dois bloquer. Et à la rigueur, informer l'auteur qui vous a envoyé que dorénavant ne m'envoie plus de choses de ce genre-là, au risque que je puisse te bloquer par rapport à mon compte. Et je pense que si tout le monde prend conscience par rapport à ça, et qu'il y a une forte sensibilisation en ligne par rapport à non seulement des fake news, mais toutes ces injures-là, je pense que les choses peuvent quand même changer. On ne sent même pas le ministère qui est chargé de l'initiation à la citoyenneté s'évertuer sur le terrain. Les ministères de la communication, on ne sait pas qu'est-ce qu'on communique et quelles sont les valeurs qu'on communique, si ce n'est que les comptes rendus des conseils des ministres. Vous allez au niveau des ACPT, il n'y a pas de mécanisme, on vous dit, non, pas la technologie appropriée, ni des experts pour suivre tous ces cas-là, surtout que ce sont des cas vraiment avec des sociétés multinationales et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est la responsabilisation de tout un chacun et que tout le monde puisse vraiment prendre conscience. Et nous, la société civile, malheureusement, souvent, les moyens sont limités pour sensibiliser les gens. Et il est important que les gens comprennent que les menaces et les injures, ce sont de mauvaises pratiques et que quand on les fait en ligne, c'est plus grave à mon humble avis que ceux qui ne les font pas en ligne, et à ce moment-là c'est condamnable. Et que lorsque on m'envoie à moi, il faut que je puisse bloquer au lieu de le partager, et à ce moment-là on encourage les mal pour rien.
Bien, nous allons accueillir Mathieu depuis Béni. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation, Mathieu?
Oui, merci pour le sujet. C'est que j'aimerais dire que les faits, ce sont vraiment des faits courants et réels que nous sommes en train de voir du jour au lendemain. Malheureusement, qui sont toujours impunis. Et cela cause vraiment des problèmes. Et cela, c'est suite aux finances du législateur congolais face à ces actes, et leurs auteurs sont vraiment impunis. Cela nous renvoie à la théorie de cybercriminalité en droit, où les gens font des chantages sur les réseaux sociaux ou sur le net. Mais moi, je pense que l'État ou le législateur congolais aussi de définir une politique un peu criminelle quant à ces, ou soit en prévoyant des lois qui doivent être des lois des douanes pour incriminer ces actes et que les auteurs des faits commencent à répondre de leurs actes à la justice parce que beaucoup de pays du monde ont déjà légiféré, ont déjà érigé ces faits en infraction. Et donc, il est aussi important pour le cas des victimes d'être aussi prudent lorsqu'ils sont victimes de ces actes, de pouvoir dénoncer parce que cela vraiment cause beaucoup de préjudice. Et donc, les victimes, il est aussi imprudent de pouvoir dénoncer ces faits pour qu'ils puissent obtenir la réparation des préjudices qui sont causés par ces faits qu'on est en train d'assister sur les réseaux sociaux.
Bien, merci Mathieu de Béni. Valérie, bonjour.
Bonjour, bonjour la Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Rappelez-nous, vous êtes dans quelle ville, Valérie?
Voilà, je suis dans la ville de Lubumbashi.
Bien, Valérie nous appelle depuis Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux insultes et menaces sur les réseaux sociaux?
Voilà, je considère d'abord que les réseaux sociaux, certes, ce sont les outils qui aident bien sûr les gens à avoir une expression, mais aussi de pouvoir échanger en famille, entre les connaissances. Mais alors, pour y arriver, moi, je pense qu'il y a d'abord la sensibilisation qui doit être mise en jeu au travers les ONG, les structures d'encadrement de jeunes, etc. Alors, hormis la sensibilisation, mais aussi il doit y avoir une réglementation. Alors, la réglementation dans l'usage des réseaux sociaux s'avère très indispensable, vu que les utilisateurs doivent faire l'objet d'un suivi permanent par un service spécialisé. Comme vient de le dire mon prédécesseur, à travers le monde, il existe des protocoles qui s'articulent sur la gestion des réseaux sociaux, donc l'usage des réseaux sociaux de manière générale. Mais la chose qui n'existe pas en République démocratique du Congo. Alors, certes, la question d'éthique et de confidentialité peut aussi intervenir dans les du contrôle. Voilà pourquoi il est primordial que la question soit traitée dans une multidisciplinarité, mais aussi dans l'interministérialité, si c'est possible. Donc, ça doit impliquer notamment le ministère de communication, de télécommunication, celui de la jeunesse, vu que la majorité sont des jeunes, mais aussi de l'éducation, pourquoi pas de l'intérieur, et même celui des affaires étrangères, si possible, parce que nous avons aussi les Congolais de la diaspora, qui utilisent les réseaux sociaux pour pratiquement insulter, bref, cracher tout ce qu'ils ont comme insulte. Alors, à ce niveau-là, vous allez comprendre que la plupart de ceux qui ont recours aux insultes utilisent les faux noms. Et donc, si avec les services spécialisés, on peut avoir moyen de localiser les utilisateurs, il y a des métadonnées qui peuvent pratiquement permettre de localiser l'endroit où l'appareil que la personne a utilisé pour lancer les messages. Avec de tels services, dès qu'il y a punition, moi je pense qu'il y aurait réticence. Et donc c'est utile que le gouvernement puisse réfléchir autour du protocole de gestion par rapport aux réseaux sociaux. Voilà ma contribution par rapport au thème du jour. Merci.
Merci Valérie depuis Lubumbashi. Henri Christian Ongenja.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec les deux auditeurs par rapport à des stratégies. Comme je disais, c'est question de la sensibilisation de pour que tout le monde prenne conscience et question aussi de légiférer parce que, comme je disais, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de politique publique en matière de la gouvernance de l'Internet en RDC. Même au niveau collectif, nous sommes en train de militer et que nous disons, une fois qu'on termine avec le plaidoyer pour le vote de la loi d'accès à l'information, il va falloir penser aussi à un autre plaidoyer pour le vote de la loi sur la liberté d'expression, parce que l'accès à l'information et la liberté d'expression, ce sont les deux faces de même monnaie qui vont toujours de pair, d'autant plus que quand j'ai accès à l'information, je dois m'exprimer. Mais je dois m'exprimer comment? Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous allons aussi prendre en compte la donne liberté d'expression en ligne pour parler aussi de toutes ces choses-là. Et nous espérons que les honorables députés, les parlementaires seront de notre côté pour faire avancer ce genre de choses. La difficulté, comme je disais aussi, dans notre pays, parce que l'auditeur de tout à l'heure, Olivier depuis Lubumbashi, il parle de la géolocalisation, le ministère est incapable. Nous avons échangé pas plus tard que la semaine passée avec le ministère des postes et des nouvelles technologies de l'information. Et ils vous disent que ils sont même incapables de capter les médias en ligne parce qu'il y a des médias qui se créent. Et vous le voyez à Kasumbalesa. Demain, vous le suivez à Kasumbalesa. Il devient à Likasi. Donc, ils changent parce qu'ils sont incapables de faire la géolocalisation. Et c'est ça, les combles, et c'est la responsabilité aussi du gouvernement qui doit savoir aujourd'hui gérer, c'est aussi tenir compte du numérique. Le numérique s'impose. Le numérique est devenu notre seconde nature et que dans la gouvernance du pays, si on ne tient pas compte du numérique et on ne sait pas aussi former les experts quant à ça, on ne sait pas se doter des technologies de pointe, on sera toujours en retard.
On ne sent pas l'implication de la société civile dans la sensibilisation par rapport au bon usage des réseaux sociaux.
La société civile, il faut savoir que le Congo est plus vaste et que la société civile nous faisait un effort de sensibiliser les gens. Il ne faut pas cliquer de n'importe quoi et ainsi de suite. Il y a toujours des sensibilisations, mais il faut avouer que c'est de petite échelle, étant donné que la société civile n'a pas de moyens, le gouvernement congolais n'appuie jamais financièrement les organisations de la société civile qui font du travail, si ce n'est que des organisations, des aspects affiliés à des partis politiques et qui vont les publicités, ainsi de suite. Mais les vraies organisations de la société civile où nous faisons du travail, le gouvernement n'appuie jamais ce genre de travail. Et nous comprenons aussi qu'il y a aussi dans tout ça, il y a aussi la responsabilité des acteurs étatiques. Parce que vous voyez, si vous suivez aussi bien parmi les gens qui sont liés dans ce genre de pratiques, la grande majorité sont les membres des partis politiques. Et ces membres des partis politiques, ils sont vraiment, ils ont la vision, l'idéologie qui viennent de leurs leaders politiques. On voit même les grands leaders politiques aujourd'hui en train d'insulter. Ils insultent aujourd'hui et demain, ça parcourt les réseaux sociaux. On voit ce qu'ils donnent comme des menaces au niveau de YouTube, au niveau de Twitter et partout. Donc, l'exemple aussi vient d'en haut. C'est-à-dire que nos leaders politiques aussi ont une grande responsabilité. Et qu'aujourd'hui, si nous devons nous plaindre avec des menaces et des insultes qui viendraient de compatriotes, mais aujourd'hui, il y a aussi des guerres qui se font en ligne numérique. Et si l'État est incapable de faire face à tout ça, et à ce moment-là, on est exposé. Donc, je pense que c'est une question importante, cette question d'injures et de menaces, et que ça demande de grandes réflexions, qu'on puisse pas voir les menaces seulement en termes de menaces verbales, qu'aujourd'hui, on peut injurier quelqu'un. Mais il y a aussi des menaces du style où on attaque tout un système. Et ça se fait en ligne aussi. Et donc, c'est important que ceux qui nous dirigent tiennent compte de cela. Mais la société civile, nous avons cette responsabilité-là de sensibiliser la population. Et c'est là où nous félicitons souvent Radio Okapi avec ces tribunes et ces micros qui nous donnent l'opportunité de toucher plus d'un compatriote sur toute l'étendue du pays, voire même à l'extérieur du pays, pour qu'ils comprennent qu'il va de soi de la responsabilité de tout un chacun, qu'insulter, menacer quelqu'un en ligne, c'est plus grave et c'est condamnable. Si on est RDC, on ne condamne pas encore, mais ailleurs, on peut vous poursuivre. L'auditeur de tout à l'heure, je pense, depuis Lumbashi, Olivier, disait, il faut, s'il parle lui, mais son prédécesseur, disait qu'il faudrait que ceux qui se sentent lésés puissent aller se plaindre. Parce que si aujourd'hui, je sens qu'on m'a insulté, on m'a vilipendé en ligne et que je tombe sur le poste de quelqu'un, mais c'est celui-là que moi je dois porter plainte. Même s'il dit que ce n'est pas moi, on va remonter la filière jusqu'à ce qu'on va trouver l'auteur matériel et intellectuel primaire, mais lui, sa responsabilité, le fait qu'il a partagé ne sera pas épargné.
Bien.
Donc, du coup, quand on commence à faire ça, les gens vont faire. Donc, je pense qu'il y a quatre points qu'il faut vraiment pour mettre fin à ça. Un, la sensibilisation. Deux, il faut que les autorités puissent légiférer cela. Trois, il faudrait que, lorsqu'on a des choses pareilles, il faut bloquer des telles publications au lieu de les partager. Et quatre, il faudrait que chacun, celui qui se sent lésé, si quelqu'un n'a pas voulu bloquer à partager, il a porté plainte parce que nous sommes dans un état de droit.
Bien, Henri-Christian Longenja, secrétaire général du collectif 24, merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci, merci à tous les auditeurs de Radio Okapi. Okapi.
Comment lutter contre les insultes et menaces sur les réseaux sociaux? Nous allons accueillir à présent Polydor Tangeli, psychologue. Polydor, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs.
Bien, avant d'aller plus loin, je vais vous convier à faire un tour, nous allons faire un tour ensemble à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, où certaines personnes appellent l'État à mettre en place un système de contrôle des réseaux sociaux. Elle lui propose entre autres la création d'un serveur central sur la gestion des contenus des réseaux sociaux en RDC. D'autres encore estiment nécessaire que le gouvernement puisse commencer par identifier les utilisateurs des réseaux sociaux pour décourager certains dérapages. Suivez les propos de ses compatriotes au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Moi, je vois qu'on peut mettre un système d'où, si quelqu'un ouvre le compte Facebook, directement, il a enregistré sur les réseaux. Une fois qu'il publie quelque chose de malsain, il est interpellé au réseau pour l'interviewer. Et enfin, s'il continue, on le bloque directement à travers les réseaux. Je souhaite que les réseaux puissent se mettre en contact avec les services de sécurité.
Oui, pour lutter contre les injures sur les réseaux sociaux, d'abord, à mon humble avis, je pense qu'il y a un problème d'abord de conscience et de la morale. Quand la personne n'a pas la morale, n'a pas de conscience, il peut agir de n'importe quelle manière. Ainsi, si on fait appel à la conscience et à la morale de la personne, je sais qu'on pourra bien lutter contre ça. Je sais que quand les gens le font consciemment, comme c'est dans les règlements des comptes entre ses collègues, entre ses amis, mais quand il faut aussi dire à l'État de lutter contre ça, je pense qu'il fallait contrôler tous les réseaux sociaux, avoir un service spécialisé de contrôle, comme ça, quand il y aura des injures contre une personne ou une autre, on pourra savoir localiser la personne qui manipule ces histoires-là sur les réseaux sociaux, et ainsi on pourra bien lutter contre ça.
Et d'abord, il faut d'abord lutter avec l'éducation de base. Comme on nous dit toujours, on peut tout donner, et sauf l'éducation. Cela veut dire quoi? On peut vous donner tout ce qu'il faut dans la famille, mais si vous n'avez pas eu l'éducation, en tout cas, c'est vraiment trop difficile de s'abstenir pour ingérer les autres. À cela, nous demandons d'abord à nos parents de revoir l'éducation de nos enfants. Pour ce moment, il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants et les enfants assistent à la musique. Et la musique qu'on chante, on chante d'une manière qui n'éduque pas.
Là, vous lancez l'appel aux parents, maintenant à l'État. Qu'est-ce que l'État pourra faire pour décourager les tels comportements?
Que l'État fasse son travail, cela veut dire quoi? Tout celui qui peut injurier l'autre. Et il y a l'innovation dans le monde. Avec l'informatique, l'État peut aussi intervenir à travers les informaticiens de mettre un serveur qui peut nous aider à identifier tous ces mondes-là. Quand quelqu'un injurie, on peut aller à partir du serveur. Le serveur va nous donner l'identité de la personne. À cela, on peut le poursuivre d'une manière éducative et justice.
Bon, vous savez, le problème d'abord se pose au niveau de Facebook elle-même. Lui-même, Zuckerberg, lorsqu'il a créé Facebook, il a manqué comment d'abord à sécuriser les données. Pourquoi? Parce qu'il laisse passer n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de mal à identifier beaucoup de gens tout en train de faire des pareilles bêtises sur Facebook. Il faut d'abord commencer par identifier les comptes fictifs là, les supprimer. Et l'État aussi va aussi nous accompagner en suivant toutes ces histoires là. C'est ça au moins ce que je vais proposer à l'État. À son niveau, mais la justice est là non pour faire son travail. Décourager tous ces jeunes gens là qui veulent travailler là, qui veulent faire n'importe quoi sur Facebook, publier des vidéos qui n'ont rien à voir, mes informations. Bon.
Le cas pareil, la solution est trop simple parce que dans les réseaux sociaux, personne ne peut créer un compte Facebook, WhatsApp, Instagram, quoi que ce soit, sans avoir un numéro de téléphone. Donc avec nous les informaticiens, il est facile de détecter. Dans quel sens? Créer un logiciel, mettre ce logiciel-là chez l'État, lui mettre à la disposition de l'État, afin qu'une fois que la personne crée son compte fictif, il y a facilité de les découvrir et de les trouver, parce que toutes nos SIM que nous avons, nos cartes SIM que nous avons, chaque province a un lot bien identifié. Donc si un compte-là est créé ici en province, par exemple du Kasaï central dont nous parlons, il y a facilité de les détecter, de savoir telle personne qui a créé un compte est telle part, est tel endroit, tel quartier, telle commune. Et on sait bien les détecter. Donc je préférais à ce que si réellement l'État veut nous aider, avec nous les jeunes informaticiens aujourd'hui, de nous donner l'opportunité de créer des logiciels capables de détecter ce genre de choses, et la solution sera trouvée à temps réel.
La meilleure chose à faire, c'est que c'est mieux de mettre un système en place. Ce système-là devrait nous aider à identifier ou bien de à localiser la personne dès qu'il publie une mauvaise information sur les réseaux, qu'il soit totalement et définitivement localisé de façon qu'on puisse trouver des pistes solutions. C'est ça un peu la chose qu'on peut retenir. Mais surtout, si notre gouvernement devait penser pour nous doter des matériels pouvant travailler avec eux pour relier les théories apprises à la pratique, ça devait quand même nous aider.
Merci Blaise Ndongala Mayanda pour ce Vox Pop, ce micro baladeur. Bien, Polydore Tangeli, vous êtes psychologue, vous avez certainement suivi les propos des habitants de Kananga par rapport aux insultes dans les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction?
Merci, c'est très intéressant de suivre tous ces compatriotes qui ont émis des avis. Lorsque j'essaie d'analyser tous les avis, en tant que psychologue, j'essaierai plus focalisé sur ceux qui touchent à l'homme, notamment lorsqu'on évoque des problèmes d'éducation de base, lorsqu'on évoque le problème de l'homme, c'est-à-dire de son fonctionnement psychologique. Quelle est notre compréhension du phénomène de l'injure facile au niveau des réseaux sociaux? Il faut dire qu'il s'agit d'un problème de communication et que lorsqu'on communique, il se pose deux problèmes. De celui avec qui on communique, trois problèmes. De ce que l'on connaît du contenu de la communication, mais surtout du support que l'on utilise. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le support qui pose problème. Le support lui-même est virtuel. Le support vous offre certaines facilités, certaines largesses du genre. Votre interlocuteur ne vous connaît pas, vous ne les comptez pas non plus. Ça, c'est de un, c'est ce qui arrive généralement. Et les répercussions de ce que vous faites, il n'est pas certain que vous allez les subir et la chose peut passer inaperçue. Ça offre aux communicateurs une certaine liberté, une certaine largesse dans l'action qu'il est en train de poser, ce qui fait que l'absence de cette censure-là ouvre la porte à des exactions que nous sommes en train de décrier au jour d'aujourd'hui. Donc, le problème se situe au niveau du support qui est utilisé, qui devra être amélioré. C'est vrai, il y a plusieurs années que Facebook et les autres sont apparus. Il faut un effort au plan technique pour une certaine amélioration, pour que le virtuel se rapproche de plus en plus de la réalité, puisque l'écart est très grand, et c'est cet écart qui ouvre la porte à une certaine largesse et légèreté. Et je dois vous dire ici que le problème ne se situe pas seulement au niveau de la personne très bien éduquée, puisqu'il y a certaines personnes qui sont éduquées, mais cette mutation, il est poli vis-à-vis de vous, mais lorsque l'outil lui offre cette opportunité, il devient impoli. Il devient impoli, oui. Vous verrez des dignitaires, vous allez les lire, vous dites, oh, mais c'est telle personne qui a écrit de telles choses. Vous l'avez jamais vu dans le réel. Il a occasionné à lui une certaine mutation psychologique qui lui offre une certaine liberté ou libertinage, à mon humble avis, et qui explique le fait qu'il y a un grand écart aujourd'hui entre le comportement qu'affichent beaucoup d'individus dans le vécu quotidien réel et le vécu quotidien virtuel. Donc, l'outil, le support de communication a une certaine responsabilité dans ça. Mais aussi, il se pose un problème de l'interlocuteur. L'interlocuteur, lorsqu'on communique avec quelqu'un, tout dépend aussi du poids qu'il a vis-à-vis de votre personne, de l'objectif que vous voulez poursuivre lorsque vous communiquez avec lui. Et là, l'espace Facebook, l'espace WhatsApp a offert, comme ça s'est dit sous certains cieux, en disant non, permettez-moi d'entrer en contact avec tel. Donc, ça a ouvert des portes qui, dans les temps, ne pouvaient pas s'ouvrir. ne pouvait pas s'ouvrir.
Oui.
Et c'est là, ça a offert de liberté. Donc, la personne qui était une personne mythique n'est plus mythique, elle est démystifiée et il se retrouve avec vous dans un même champ de bataille où vous avez une sorte de, d'égalité de positionnement et ça explique cette, cette largesse aussi, cette, ce libertinage qui n'est pas une liberté d'expression à mon humble avis.
Alors, Polydor, Tangeli, est-ce que nous pouvons dire que cet espace virtuel est, est devenu un lieu où les gens peuvent déverser leurs frustrations, se défouler en lançant des insultes à l'endroit des autorités ou des personnalités publiques?
Exactement. Du fait de la nature, du fait de la nature de l'espace qui démystifie les intervenants, qui font perdre aux intervenants leurs différents grades. Au fait, je me mets à la place de la personne puisque je suis psychologue. Ça, ça fait déprimer tout le monde. De là où je suis, il suffit que j'aille mon clavier et que je glisse un message. Je sais que je ne serai pas retrouvé. Vous comprenez? Je sais que je serai difficilement identifié. Et à ce titre-là, ça me donne une certaine largesse. Puisqu'il n'est pas certain que je subisse les conséquences de ce que je fais. Donc, c'est de l'espace opportun pour certains opportunistes, puisqu'il faut dire aussi, beaucoup d'injures qui passent dans les réseaux sociaux sont des règlements des comptes. Des règlements des comptes à des personnes avec qui on a eu des contentieux dans les temps et dans l'espace.
Nous, souvent, c'est entre adversaires politiques.
Exactement entre adversaires politiques et, vous savez, les politiciens se servent des médias. Au jour d'aujourd'hui, la montée des réseaux sociaux qu'on va même menacer, bon, je suis pas contre la radio Okapi, va même menacer les médias traditionnels comme la télévision, comme la radio et puis les journaux. Puisque dès mon téléphone, je sais déjà ce qui va se passer. Je peux me passer de la radio, je peux me passer de la télévision, je peux me passer des journaux. Donc, c'est un danger, mais la réalité est là, c'est que l'homme, en mitant du réel vers le virtuel, a trouvé des facilités. Et au jour d'aujourd'hui, le fonctionnement normal d'un être humain face aux facilités génère des effets corrosifs. C'est ça la compréhension psychologique qu'il faut avoir du phénomène. Génère des effets corrosifs qui expliquent des dérapages. D'où, à mon humble avis, il faut insister. Au-delà du fait qu'il faut sensibiliser, au-delà du fait qu'il faut éduquer l'homme, il faut plus agir sur les facilités psychologiques, les effets d'entraînement corrosif qu'offre le support utilisé. Puisqu'aujourd'hui, si je vous injurie par écrit à travers une lettre, c'est vérifiable. Si je vous injurie à travers la radio, c'est vérifiable. Si je vous injurie à travers un point de presse, c'est vérifiable. Mais lorsque on utilise les réseaux sociaux, les moyens de vérification sont là, mais ils ne sont pas rassurants. Ils n'ont pas encore atteint une certaine tangibilité,
oui,
qui fait que la personne elle-même se retrouve dans un terrain ouvert et il se donne ce luxe-là. C'est lié à la nature humaine.
Eh bien, Polydor Tangeli, nous avons des auditeurs en ligne, Bernard et Simon de Kananga. Bernard, bonjour.
Bonjour, la radio Capu, bonjour à tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux insultes sur les réseaux sociaux?
Ok, nul n'ignore que les réseaux sociaux donnent l'accès à tout le monde. Mais il y a un problème qui se pose lorsque l'utilisateur commence à insulter les autres ou à faire des civilisations diffamatoires. C'est vraiment horrible. Mais ils oublient que la plupart des gens n'accèdent pas sur les réseaux sociaux vu les mauvais comportements des internautes. Je demande au gouvernement de pouvoir insérer un mécanisme de contrôle de l'Internet. De peur que le moment où il y aura des incidents, que l'incivique soit arrêté. Quel est l'état d'un enfant au Burundi qui avait créé un compte Facebook pour injurier son président? C'est ces dernières a été arrêté. Nous voulons vivre dans un pays où les gens sont matures et non vivre l'incivisme à grande échelle. Évitons de dire chaque fois liberté d'expression quand bien même la personne publie mal sur les réseaux sociaux. Voilà au moins ma contribution.
Merci Bernard de Kananga. Simon, vous êtes dans la même ville. Bonjour.
Ouais, bonjour, bonjour également à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
Ouais, merci beaucoup, Jody, hein, pour l'opportunité. En fait, j'ai pas tellement de questions à pouvoir poser à l'invité, hein, si ce n'est qu'une contribution. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, moi, je considère ça comme de l'anonymat, hein. Comme on a toujours dit, l'anonymat favorise le vandalisme. Hein, lorsque quelqu'un agit sous anonymat, il se permet de tout. Hein, il peut tout agir parce que son identité est verrouillée, à découvrir. Alors, le problème qu'il y a là, c'est d'abord la base de l'éducation. Quelqu'un qui est vraiment très bien éduqué, je ne pense pas qu'il puisse utiliser les injures sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, en soi, c'est pas mauvais, mais c'est l'usage de nous, les utilisateurs, qui faisons mal. Alors, quelle est la proposition que nous pouvons proposer pour l'instant, excusez-moi la tautologie. Premièrement, je pense que l'État a une responsabilité. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, l'État avait exigé à tous les clients des opérateurs, et plutôt de la télécommunication, tous les clients utilisant RTL, Vodan, d'aller se faire identifier avec leur SIM. De manière à ce que si quelqu'un agit ou communique des choses qui sont malsaines, on puisse l'identifier directement. Alors les réseaux sociaux, je pense que c'est pas quelque chose qui soit venu au hasard. Ce sont les entreprises, les sociétés qui existent. Il y a des gens qui travaillent là-bas, qui utilisent ces big data-là. Je pense qu'on doit faire aussi de manière... Avant que quelqu'un puisse créer un compte Facebook, il doit se faire identifier avec sa carte d'identité. Comme ça... Quand il y a des insultes, des menaces comme ça, on peut directement orienter et découvrir la personne directement. Donc l'État doit instruire des démarches comme ça, que chaque personne pouvant créer, se connecter aux réseaux sociaux, au préalable qu'il s'identifie d'abord comme on l'a fait récemment avec les sociétés de télécommunications.
Oui.
C'est un peu préalable et aussi à nos élus, hein, ils peuvent voter une loi qui puisse coincer tout ce monde-là. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation, ce qui se passe, c'est pas normal. Donc, l'erreur va de quoi on comprend, mais la responsabilité revient au préalable à l'État.
Bien.
À l'État, voilà un peu ma préoccupation.
Merci Simon de Kananga. Maître Edmond Bokolo de Mbandaka, bonjour.
Bonjour la Radio Café, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux insultes et menaces sur les réseaux sociaux?
Merci beaucoup. Pour la thématique, je crois que les menaces ou les insultes des réseaux sociaux sur les endroits, ce sont des faits qui sont déjà légiférés. Nous avons un code, le code pénal de 1940, qui incrimine de tels actes. Mais chez nous au Congo, j'ai mené même des recherches, je vais publier un livre sur la cybercriminalité où nous avons un problème sérieux pour l'identification des personnes. Qui publie de tels genres d'insultes, par exemple, ou de menaces. Voilà pourquoi, pour essayer un peu d'atténuer cette situation ou de bien légiférer ça, nous avions voulu que les législateurs congolais, parce qu'on l'a dit, il y a même une loi que le professeur, si je ne m'abuse pas, l'honorable Tony Mwamba avait initié au Parlement sur la cybercriminalité, où il fallait réglementer d'abord les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que lorsque on légifère, là, nous serons comme les pays européens où, lorsque vous allez acheter un téléphone mobile, lorsque vous achetez une tablette ou vous achetez un téléphone, chaque appareil a une identification. C'est que les informaticiens le savent, on appelle ça IP. Donc, une adresse qui permet, une série d'informations qui permet d'identifier chaque téléphone ou chaque appareil.
Oui.
Oui, chaque utilisateur. C'est à partir de là, si nous avons cette loi sur les nouvelles technologies, au niveau central, par exemple à Kinshasa, on peut avoir un fichier national où le service est là pour identifier tous les appareils et les ordinateurs utilisés au Congo ou qui viennent de l'étranger, qui accèdent dans les pays. Et là, c'est comme les mobiles, les réseaux de télécommunications où, comme on communique avec vous actuellement, donc le service Vodacom sait que j'étais en communication avec la radio Kati, voilà. Parce que cette situation, j'ai suivi même mon ami qui vient de passer avant moi, et il a parlé sur le réseau de télécommunications. Les réseaux de télécommunications ne gèrent pas le Facebook, ne gèrent pas les Google, les Twitter. Les réseaux de communication nous donnent juste l'accès pour accéder. Mais le bévu ou les actes ignobles qui se commettent au niveau des réseaux sociaux, en tout cas les réseaux de communication ne sont pas responsables. Voilà pourquoi il faut une loi comme ça, identifier chaque appareil avec une adresse IP, et puis chaque téléphone avec une adresse IP. Là, on pourra quand même identifier les auteurs. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, ce sont déjà des faits qui existent, qui sont déjà réglementés, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que sur nous, en droit, il y a même un principe qu'on appelle, il y a un mot de preuve qu'on appelle la présomption. Comme moi, je m'appelle Edmond Boko, le lien comme Facebook. S'il y a des insultes qui sont publiées sur Facebook, dans un premier temps, voilà, je serai supposé comme responsable. C'est à moi, Edmond, d'aller prouver devant le juge ou devant le procureur que ce n'est pas moi. Voilà. Donc, ils sont déclarés coupables de tels faits. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais apporter ma contribution.
Merci, Maître Edmond Bokolo de Mbandaka. Polydor Tangeli.
Voilà. Donc, à comprendre les trois intervenants, donc, je pose un problème de l'identité du communicateur. Et l'illustration que j'ai prévue pour faire comprendre à nos auditeurs, c'est le comportement que affichent les personnes le jour et la nuit. Vous voyez que la nuit, par le fait qu'il nous offre une certaine obscurité, nous nous comportons de la manière totalement opposée à ce que nous faisons la journée. Oui, le jour.
Oui, oui.
Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. L'effort à fournir, c'est de diminuer le degré d'anonymat. De diminuer le degré d'anonymat, c'est vrai, il y a un problème d'éducation de base, mais par contre, nous voyons des personnes de bonne moralité, des personnes bien éduquées, profitant de cet anonymat pour agir de la pire de choses. Je rejoins le juriste lorsqu'il dit que il y a plus de peur que de mal, puisqu'en réalité, il y a déjà une certaine législation en cette matière. Peut-être qu'il faut tout simplement l'enrichir. Hein? Il faut tout simplement l'enrichir. Lorsque vous injuriez quelqu'un en public et qu'il y a moyen de tracer ça, il y a moyen de tracer. Moi, je réponds au nom de Polydor Tangeli, mon compte Facebook, c'est Polydor Tangeli. Lorsque une injure vient de moi, donc, je suis poursuivable. Faut-il encore que je vérifie s'il n'y a pas un compte parallèle.
Voilà.
Un compte parallèle qui puisse exister. Donc, c'est à moi de pouvoir prouver.
Polydor,
mais tant qu'il y aura...
Oui. Allô? Pour terminer, Polydor, qu'est-ce que l'autorité et les personnalités publiques?
Je vais me répéter en disant, il faut que chaque message soit accompagné d'un identifiant. C'est-à-dire, un message transféré ou pas au niveau de téléphone, si Facebook ou WhatsApp me suivent, qui est un identifiant, et si moi je me permets d'être co-auteur, c'est-à-dire je partage le message, que mon identifiant soit associé à l'identifiant de l'auteur du message. Comme ça, on peut faire la part des choses entre l'auteur du message et l'auteur et les co-auteurs du message d'insulte. Faut-il encore dire ici que il y aura toujours un problème puisque votre message, je peux le coller. Je peux le coller et je le partage. Donc, même celui qui le colle, qui le partage, doivent être identifiés. Et je crois, techniquement, notre ami de Facebook et de WhatsApp et de Messenger, tout ça, peuvent se concentrer, ils pourront trouver la solution à ça. Comme ça, on va diminuer, on va augmenter la tangibilité de la communication et diminuer le degré de l'anonymat des messages qui sont transmis d'un communicateur à un autre. Et ça va permettre à ce que on puisse facilement identifier ceux qui sont auteurs de toutes ces bavures.
Bien. Polydor Tangeli, psychologue, nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci Jody, merci à tous les auditeurs.
Et oui, fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève le magazine de la vie au quotidien, au Capi Service qui a porté sur les insultes et menaces sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Paul Badianiam a été à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination au micro, Jody Daniel Kajama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Merci de nous avoir suivis, restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine. La deuxième tranche de cette émission de la vie au quotidien.